Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il y a plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, écrivait Jean d'Ormesson. Écrire pour se souvenir, pour transmettre, écrire comme thérapie, écrire comme une souffrance, écrire pour déposer les armes. Doit-on écrire un livre sur un secret de famille ou le laisser dans le noir de l'oubli? Pour aller à la rencontre des fantômes du passé, on découvre qu'il ne faut compter que sur sa seule volonté. Seule solution, lorsqu'on ne peut obtenir aucune confidence de sa mère, qui paradoxalement respecte, pour ainsi dire, la loi de l'oubli et le pacte du silence, qui seront le lourd tribut payé à l'instauration de la démocratie en Espagne. Témoignage poignant d'un combat pour la vérité, c'est ce que nous propose Christine Martinez Médal, en passeuse de mémoire dans son ouvrage « La valise de ma mère », paru en 2023 aux éditions Complicité. Christine Martinez Médal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Une petite erreur, je crois, de ma part.
Oui, le livre a été publié le 1er juillet 2021. En 2023, c'est le deuxième ouvrage qui paraît.
Dont nous allons avoir l'occasion de reparler. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Présence. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ma première question, qui n'appelle peut-être pas une réponse directement, c'est peut-on tenir un secret de famille ?
C'est une question importante et essentielle, mais qui touche énormément de familles, parce que des secrets de famille, je crois qu'il y en a un petit peu partout. Mais un secret de famille tel que celui que moi j'ai découvert, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement.
Ouais. Alors nous allons y revenir en détail. Auparavant, je souhaiterais que l'on parle un petit peu de votre biographie pour que les auditeurs vous connaissent mieux. J'ai vu dans la presse que vous aviez déclaré que vous auriez dû naître au Mexique. Pourquoi donc ?
Oui, j'aurais dû, oui. Parce que papa donc était un républicain. Donc engagé dans la lutte contre Franco, il a commencé comme capitaine, il a terminé commandant de l'armée républicaine. Et le 1er avril 1939, à la fin de cette guerre dite civile, il a fallu fuir, puisque sinon, s'il était attrapé, il allait être fusillé sur le champ. Et donc, comme il faisait partie des grands officiers et également membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, dont il avait quelques responsabilités déjà au sein de ce parti, ils avaient reçu comme consigne de descendre sur le port d'Alicante, d'où partaient donc des bateaux emportant des civils et des militaires. Et il avait déjà eu, lui, des amis du parti qui étaient partis au Mexique. Donc lui voulait les rejoindre au Mexique, sauf que lorsqu'il arrive sur le port d'Alicante, ben, le bateau pour le Mexique est parti. Et le seul qui reste, et ce sera le dernier qui quitte le port d'Alicante avant que les troupes italiennes envahissent donc, les quais, c'est un bateau qui part pour l'Algérie. Ce qui fait que moi, s'il avait pu prendre ce bateau pour le Mexique, je serais né au Mexique. Sauf que là, il s'est retrouvé en Afrique du Nord.
Et finalement, où êtes-vous né?
Lors du deuxième exil, parce que donc son premier exil, ça a été l'Algérie. Et vous voulez que je développe là ou après?
Après.
D'accord. Donc le premier exil, c'était donc l'Algérie. Et puis ensuite, il a été libéré par les Américains en novembre 1942. Et il est passé au Maroc. Et donc, je suis né, moi, au Maroc lorsque... Enfin, au bout de 9 années de séparation entre mon papa et ma maman, puisque maman, elle était restée en Espagne alors que papa avait fui. Donc, ils se sont enfin retrouvés et 9 mois après, je suis née.
Voilà. Et alors donc, plus tard, vous avez fait effectuer un autre passage vers un autre pays qui était la France.
Exactement.
Et vous êtes, je crois, resté 17 ans à peu près au Maroc.
Oui. Oui.
Et ensuite, donc, vous êtes installé en France avec vos parents.
C'est ça. Je suis née donc en 49 à Casablanca, au Maroc. Et donc, nous y avons vécu jusqu'en 1967, date à laquelle mon père donc, a été élu à un congrès très important donc à Toulouse, congrès du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol en Exil, où il a été élu vice-secrétaire général. Et donc, il a fallu venir donc, sur Toulouse. Donc, mon père, ma mère, et je suis rentrée donc, au lycée Saint-Sernin donc, pour continuer mes études.
D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez donc vécu une vie rapidement qui n'était pas une vie monotone, je veux dire, qui a été faite de rebondissements, de déménagements. Et c'était finalement en ligne directe en termes de qualité de vie et de mouvement de vie de vos parents, finalement, puisqu'ils ont vécu des choses, et notamment votre mère, très difficiles. Donc c'est quelque chose, un petit peu, dans le prolongement de ce qu'ils avaient déjà vécu, que vous avez vécu un petit peu.
Je ne dirais pas ça, parce que ça n'a aucune comparaison quand même avec ce qu'ils ont vécu eux pendant la guerre dite civile. Je dis toujours dite civile parce que c'est pas pour moi une guerre civile, et d'ailleurs les historiens reviennent sur ce terme-là aujourd'hui. C'était un conflit entre les nationalistes et ceux qui défendaient la République, hein, légalement installée, donc en Espagne. Mais c'est sûr que pour les vainqueurs, ça les arrange de dire guerre civile. Guerre fratricide,
oui, c'est un abus de langage.
Voilà. Et donc, c'est vrai qu'eux, donc, ils ont vécu vraiment 3 années de guerre, les armes à la main pour pouvoir défendre donc leur pays et leur république. Et après, s'en est suivi quand même des années de dictature. Donc, eux, ils ont vraiment vécu très, 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 très difficilement. Moi, je suis née au Maroc et j'ai vécu vraiment dans un cocon. Protégé, loin de la politique, loin de la guerre. On me tenait à l'écart de tout cela, même si je savais que mon père avait des responsabilités là-bas au Maroc, à Casablanca, hein, puisqu'il était le président donc du Parti Socialiste pour toute l'Afrique du Nord, et qui recevait beaucoup de personnes. Mais à table, de toutes les façons, moi, je n'avais pas droit à la parole. Et dès qu'il discutait de politique... Moi, il fallait que je quitte la table. Donc moi, j'ai vécu des années merveilleuses, donc d'études et d'amitié avec des enfants, des réfugiés politiques amis de mon père. Moi, je n'ai pas le sentiment vraiment d'avoir vécu un exil. C'est beaucoup plus tard que j'en ai eu ressenti. Quand j'étais petite, oui. Par contre, bon, les enfants, on le sait, qu'ils sont quand même assez un petit peu méchants les uns envers les autres. Donc moi, quand j'étais petite, on me disait que j'étais l'Espagnole. Donc on disait que j'étais la fille des rouges. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et quand j'arrivais à la maison, que je leur demandais à mes parents, ben, ils n'expliquaient pas. Ils disaient, mais non, mais ça c'est des bêtises, laisse tomber, c'est pas grave. Donc je ne me suis pas sentie vraiment très décalée. Par contre, quand il fallait noter la profession dès la rentrée scolaire, moi, mon père m'avait dit « tu notes réfugié politique ». Bon, mais ça, pour moi, ça ne signifiait pas grand-chose. Hein. Je vous dis très sincèrement, même, je suis arrivée à 17 ans au lycée Saint-Sernin. Pourtant, le lycée Saint-Sernin est au bout de la rue du Thor. Et au milieu de la rue du Thor se trouvait le siège du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol en Exil, où mon père... Donc, travailler comme vice-secrétaire général et comme rédacteur du journal Le Socialiste. Mais j'étais tenue à l'écart. Moi, de toute façon, mes parents, ce qu'ils voulaient, c'était que je m'intègre dans la société française, que j'étudie, que j'ai un métier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu pour en revenir au silence et au secret de famille, je pense qu'ils m'ont tenue à l'écart pour me protéger.
D'accord.
Eux, c'était le passé, la guerre, les tragédies qu'ils ont vécues, c'est-à-dire eux, mon père, ma mère et mon frère aîné, qui était né en 37 pendant la guerre civile. Et moi, j'étais l'avenir, j'étais la France, j'étais les études, j'étais autre chose, j'étais l'espoir. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont tenu à l'écart.
D'accord.
Alors, donc, d'autant plus qu'en 2004, quand je découvre ce secret de famille, pour moi, c'est terrible.
Voilà. Alors, c'était un petit peu le sens de ma question. Si vous voulez, c'est cette agitation et ces tourments un petit peu décalés, finalement, compte tenu du parcours et des événements qu'ont vécu vos parents. Alors, avant d'y revenir un petit peu plus en détail, donc, je voulais parler aux auditeurs de votre bibliographie, avec les bonnes notes ce coup-ci. Donc, votre premier roman, c'est... La valise de ma mère, qui est parue donc en 2021, effectivement. J'ai vu qu'il y avait une version espagnole, La maleta de mi madre, qui est parue au même moment ou en décalé ?
Non. Je suis allée participer pour la première fois dans un salon du livre en février donc 2022, donc quelques mois après la parution de La valise de ma mère, à Argelès-sur-Mer. Et c'est vrai qu'il a eu énormément de succès. Et j'ai eu la chance, vraiment c'est une chance, étaient présents donc des auteurs, des libraires, des éditeurs. Et parmi ces éditeurs-là, il y avait une éditrice qui s'était spécialement déplacée de Madrid et qui a eu le coup de foudre pour le livre. Elle a acheté la version française, on a échangé nos mails. Et dès le lundi matin, puisque le salon avait lieu le dimanche, dès le lundi matin, je recevais un message de sa part qu'elle voulait absolument acheter les droits du livre parce qu'elle ne l'avait pas sur son catalogue, elle n'avait pas ce type de sujet dans son catalogue. Et donc, voilà comment ce livre a eu une deuxième vie et qu'il est paru donc, en janvier donc 2023, donc c'est tout récent. Sous le titre La maleta de mi madre est publié avec l'éditorial del Monolibre Madrid.
Voilà. Et vous avez commis un troisième ouvrage, donc, qui s'appelle Une légende espagnole.
Oui.
Toujours aux éditions Complicité.
Oui.
Et alors, cet ouvrage, c'est une suite du premier ou c'est quelque chose de différent ?
Non, ce n'est pas la suite. Beaucoup me disaient ce que c'est la suite. Non, ce n'est pas la suite dans le sens où je n'ai pas encore retrouvé mon frère. Donc, quand je l'aurai vraiment retrouvé, j'ai espoir de le retrouver, il y aura une suite. C'est le pendant de l'histoire de ma mère, mais vue et vécue par mon père, donc son parcours depuis sa petite enfance dans un petit village entre la frontière portugaise et Madrid, et puis son parcours après à Madrid, sa défense des idées socialistes, son engagement donc pour défendre la République, son engagement donc militaire, etc. Donc ses exils. Donc voilà, c'est un autre pan de l'histoire un peu méconnu aussi en France, de la même manière que La valise de ma mère surprend toujours, parce que même lorsque je suis invitée par des professeurs d'histoire ou d'espagnol, notamment je suis allée au lycée Aragon à Muret, rencontrer plusieurs classes. C'est un sujet qui est méconnu quand même en France et même, je dirais, en Espagne aussi, parce que je suis allée au mois d'avril, invitée par le lycée français de Madrid, à la rencontre donc de lycéennes de terminale, et eux aussi, la plupart ne connaissaient pas, parce qu'on ne leur enseignait pas dans les livres d'histoire ce pan-là. De la même façon que dans la légende espagnole, ici dans notre région, qui n'a pas entendu parler de ces 500 000 Espagnols qui ont traversé les Pyrénées et qui se sont retrouvés, pour la plupart, dans des camps de concentration dans le sud de la France.
Tout à fait.
Sauf que moi, justement, je parle de l'autre exil, de ceux qui ont quitté le port d'Alicante à bord de X bateaux, parce qu'il y en a qui sont partis au Mexique, d'autres au Chili, enfin un petit peu partout, et en Afrique du Nord. Et donc moi, je parle de cette odyssée-là. Voilà.
D'accord. Alors, on voit que l'histoire familiale a été le fondement de votre motivation pour écrire. Au début du livre, je l'ai cité tout à l'heure, vous citez « écrire pour se souvenir, écrire pour transmettre, comme une thérapie, comme une souffrance, écrire pour déposer les armes ». Est-ce que vous avez réussi à déposer les armes ?
Pas encore. Pas encore.
Et je suppose que...
La lutte continue.
La lutte continue, oui. Alors, cette idée d'écrire, vous est venue spontanément ou il y a eu une maturation ?
J'ai toujours écrit. parce que j'ai suivi des études littéraires et j'ai toujours adoré la langue française. Mais j'écrivais pour moi, pour mes enfants, pour mes amis. Et de toutes les façons, je ne me sentais pas légitime au point de publier un livre, d'envoyer un manuscrit à un éditeur. Sauf que lorsque je découvre ce secret de famille en 2004, je commence mon enquête, ma quête de vérité. Et c'est en 2009 que j'arrive à avoir quelques réponses et que je rencontre des historiens qui sont justement ancrés dans la région où ma mère avait été incarcérée, c'est-à-dire à côté de Mutriku, à Ondarroa, donc une association d'historiens avec qui je suis toujours en contact. Et qui m'ont aidé à obtenir certains documents officiels importants comme le jugement du tribunal et autres, et qui m'ont dit il faut que tu écrives. Dès 2009, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit tu dois écrire cette histoire, tu la dois à tes parents, il faut que tu écrives. Moi j'ai dit mais non, mais jamais de la vie. C'était 2009 et il m'a fallu 10 ans pour pouvoir sauter le pas parce que je me sentais pas légitime pour cela. Et évidemment, le destin fait que on se retrouve en confinement. Et là, mon ami historien me dit, bon ben là c'est le signe du destin. Tu es dos au mur, tu es toute seule chez toi avec ton chat. Tu n'as pas d'autre alternative que d'écrire. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et mes enfants m'ont dit, il faut que tu envoies ton manuscrit aussi. Bon, et j'ai tenté le coup et puis ça marchait.
Alors, vous dites que vous n'aviez pas a priori, que vous ne vous sentiez pas légitime pour écrire, mais au fur et à mesure que vous avez avancé dans la besogne, je crois que des choses ont pris forme, parce que vous écrivez notamment que vous vous sentiez comme un devoir moral vis-à-vis de votre famille, d'aller jusqu'au bout de cette aventure, de cette enquête, de cet ouvrage, et que quelque part, ça vous permettait vous-même de remonter dans l'histoire familiale et là pour le coup vous vous sentiez redevable par rapport aux différents membres de votre famille.
Oui, tout à fait. Je me devais donc de porter cette histoire à la lumière pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est comme je dis, je suis née 9 mois après leur retrouvaille. Ils ont été séparés pendant 9 ans. Et d'ailleurs, lorsque je suis née, papa a dit « Cet enfant-là, Franco, ne nous le prendra pas. » J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui me touche énormément. Je me mets vraiment à la place de mes parents, de ce qu'ils ont vécu. Et donc, ça, c'était le bon premier devoir. Je leur dois la vie et je suis l'enfant, justement, rescapé. L'enfant de l'espoir, comme disait mon père, l'enfant de l'avenir. Et ensuite, quand j'ai creusé et que j'ai acquis beaucoup de documentation privée et officielle et que j'ai découvert leur parcours, je me suis dit, mais il ne faut pas que ça reste dans l'oubli parce qu'ils vont mourir une deuxième fois. Voyez, je vais vous dire même une chose importante pour moi au jour d'aujourd'hui. Mes parents, les deux, ne sont pas académiciens. Mais pour moi, ils sont immortels, grâce à ces deux livres.
Très, très, très jolie formule. Christine Martinez-Médal, je vous propose de faire une première pause musicale.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Christine Martinez-Médal pour son ouvrage La valise de ma mère. Christine, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. C'est votre histoire ?
Je dirais que c'est plutôt l'histoire de maman. Parce que c'était sa chanson, une de ses chansons préférées avec La Historia es la historia de un amor aussi. Mais Bésame mucho, vraiment, c'est une chanson qui ensuite, après le décès de maman, m'a accompagnée très très souvent. Chaque fois que je suis allée en voyage quelque part, que je rentrais dans un restaurant où il y avait un orchestre, dès que je rentrais, c'était cette chanson-là, mais c'était incroyable. Même à Mallorca, ça m'est arrivé dans le parc aussi, un chanteur ambulant, il y avait aussi des cassettes, et la première cassette qu'il met, c'est Bésame mucho. Je sais bien que c'est une chanson qui est connue dans le monde entier, mais autant de coïncidences, j'ai dit non là. Et puis, ce qui s'était passé au décès de maman, donc pour moi, cette chanson est très, 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 très symbolique, très chargé d'amour avec et envers ma mère.
Alors votre ouvrage, si on y revient de manière plus précise, certes c'est un récit de vie, c'est un texte très fort sur la recherche d'un secret de famille, mais c'est aussi un témoignage sur la guerre improprement nommée civile espagnole. On y décèle forcément une quête de liberté et de bonheur, mais on y voit aussi un exemple assez formidable de résilience. Et enfin, ce qui va nous permettre de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si on peut dire, c'est un grand coup de projecteur sur quelque chose qui a longtemps été caché, alors en France n'en parlons pas, mais même en Espagne, sur ce qu'on a appelé parfois les bébés volés. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer, j'allais dire cette affaire de manière impropre, ce scandale des bébés volés ?
Mais tout a commencé de toute façon avec l'idéologie de la Falange et du franquisme. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup appris en me documentant, c'est la similitude qu'il y a quand même entre le régime nazi et le régime franquiste. C'est-à-dire que à l'époque, en 1937, le docteur Valéja, qui était un militaire psychiatre, allait souvent en Allemagne et il était très admiratif de la philosophie de Himmler. Et Himmler, lui, il voulait conserver le sang pur de la race aryenne. Et pour cela, ils ont mis en place toute une organisation de kidnapping d'enfants. Ils raptaient les enfants aux yeux bleus, aux cheveux blonds, qui se rapprochait le plus de ce que pour eux représentait la race aryenne, et ils enlevaient ces enfants dans tous les territoires qu'ils occupaient. Et ils ont créé des foyers, Lebensborn, donc ce sont des associations nazies dans le but de créer donc cette race aryenne dominante. Et donc Vallejo, quand il revient donc en Espagne, il s'adresse à Franco et il lui dit la race espagnole est en danger à cause du gène rouge, du gène communiste que les mères républicaines transmettent à leurs enfants. Donc il faut absolument soustraire ces enfants avant l'âge de 3 ans aux mères qui sont enfermées donc dans des prisons. Celles qui vont accoucher ou celles qui sont rentrées avec un enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec maman. Et dès 1938, il a mis en place donc cette organisation terrible où il y a énormément de complicité avec des médecins, des avocats, des religieuses, tout un organisme donc où ils vont kidnapper ses enfants. Au départ, avant donc 1937-38, donc dès 1936, dès que la guerre démarre, on va kidnapper ses enfants dans les maternités ou dans les orphelinats, mais surtout dans les maternités. On va enlever cet enfant à la femme qui ne correspond pas au profil de la femme selon la philosophie de, si on peut appeler ça une philosophie, de Franco. C'est-à-dire, chrétienne, bien sous tout rapport, pas mère célibataire, enfin voilà. Donc tous les rebuts, on allait leur enlever les enfants. Et puis après, on s'est attaqué donc à ces fameuses femmes républicaines. Il y a eu quand même 30 000 enfants qui ont été raptés, kidnappés à ces mères républicaines qui étaient en prison, dont ma mère. 30 000. Et on peut chiffrer jusqu'à 300 000 enfants qui ont été kidnappés jusqu'aux années 90, mais là après pour des raisons lucratives plutôt. Donc ces 30 000 enfants, on les enlevait et comme en Allemagne avec Lebensturm, pourtant j'ai fait 3 ans d'allemand. Lebensturm, en Espagne, ils ont créé des sites à auxilio social, où on intégrait donc ces enfants également avant de les donner à l'adoption ou de les vendre. Parce qu'il fallait justement les rééduquer, les régénérer pour enlever ce gène fatal rouge les donner à des familles donc, qui allaient l'élever dans les principes donc, du franquisme.
Et c'est quelque chose, vous dites, qui a duré jusque relativement récemment.
Oui, jusqu'aux années 90, oui.
Et est-ce que ça concernait toujours des femmes qui étaient en détention ou est-ce qu'il y avait d'autres formes?
Non, les femmes qui étaient en détention, c'était jusqu'aux années 40, ouais. 40, 40, 42, 45, on va dire. Moi, ce qui m'horripile aussi, c'est que, je vais peut-être anticiper, mais ces femmes qui sont... plus maintenant, parce qu'évidemment, les années ont passé et le temps joue contre elles. Mais moi, je suis la sœur d'un enfant qui a été rapté, donc moi, je suis à la recherche de cet enfant. Donc aujourd'hui, on n'a pas de moyen de pouvoir retrouver ces enfants-là. Parce que ce qui nous manque le plus, c'est une banque nationale de données ADN. Je voudrais préciser que en Argentine, par exemple, il y a eu également un vol d'enfants, à peu près dans les 500 enfants. En Allemagne, c'était de l'ordre de 100 000. 100 000 enfants qui avaient été raptés dans les territoires occupés. En Espagne, 30 000 des femmes républicaines et jusqu'à 300 000 jusqu'aux années 90. Et En Argentine, donc, à peu près 500 enfants qui ont été enlevés à ces femmes qui étaient opposées au régime, femmes en prison, torturées ou décédées. Et par contre, dès que la démocratie est arrivée au pouvoir, un des premiers actes du gouvernement a été de créer une banque nationale de données ADN en dehors d'autres services aux victimes. Et cela a permis quand même de retrouver une centaine d'enfants. Ça ne leur a pas pris autant d'années que nous, parce que la guerre étant finie en 1939, Franco qui meurt en novembre 1975, nous sommes en 2023. Il y a encore un petit espoir qui surgit là maintenant, de ces brumes. En octobre 2022, il y a une deuxième loi de la mémoire qui a été donc créée. La première, c'était la loi de la mémoire historique en 2007. Et là, ils l'ont appelée loi de la mémoire démocratique, dans laquelle, donc, le projet avait été soumis au Sénat en 2018. Il a été accordé ou non, il y a un mot spécial, mais enfin, bon, bref.
Promulgué,
donc,
peut-être.
Voilà, oui. En octobre 2022, dans lequel il y a donc justement cet engagement du gouvernement de créer cette banque nationale de données ADN. Et autre chose aussi de très, très important, donc, ben, on est en 2023, il faut du temps. Bon, mais moi j'ai beaucoup d'espoir dans cette création de banque. Et donc ça va aider aussi beaucoup de personnes. Et un autre fait aussi qui est très très important dans la société espagnole actuelle, c'est que pour la première fois depuis, on va dire, 2008. En 2008, le juge Baltasar Garzón, un juge extraordinaire, très très courageux, a voulu enquêter sur la disparition donc de personnes donc mineures forcées. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est comme ça qu'il avait intitulé son début d'enquête. Le problème, c'est que ils l'ont coulé. Et il a fallu même qu'il démissionne parce qu'ils l'ont poursuivi. Enfin bon, bref, donc c'était horrible en 2008. Et en 2018, il y a eu un premier procès en Espagne sur les bébés volés. Donc en reconnaissant coupable le docteur Vela. Le docteur Vela était un médecin gynécologue et donc ils l'ont accusé d'être un des principaux auteurs du trafic d'enfants, sauf qu'il n'a pas pu être condamné parce que les faits étaient prescrits. Donc ça, vous voyez déjà. Et là, en 2023, enfin, une juge déclaré recevable la plainte d'un couple de retraités qui habite Barcelone, qui avait été donc arrêté et torturé donc lorsqu'ils étaient étudiants et syndicalistes en 1970, donc avant la mort de Franco. Et là, cette juge, elle a accepté. Un courage extraordinaire. C'est toujours les femmes quand même qui vont de l'avant, hein, parce que auparavant il y a eu la juge Marie Cirvini qui a été extraordinaire parce que toutes les plaintes qu'on déposait en Espagne étaient irrecevables et il fallait se tourner vers l'extérieur. Malgré les injonctions de l'ONU, de Amnesty International, etc., il n'y avait rien qui bougeait. Et donc, il y a eu une plateforme de coordination de plusieurs associations qui s'est créée et qui est allée en Argentine auprès de cette juge pour se faire défendre. Quoi. Sauf que la juge, elle a eu une fin de non-recevoir donc de l'État espagnol.
Alors, on va continuer plus en détail, mais donc pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que l'arsenal législatif sur lequel maintenant en Espagne on peut se reposer est relativement récent et que jusqu'à présent il y avait plutôt une chape de plomb sur ce sujet qui fait que quelque part dans votre livre vous faites dire tout ça constitue le lourd tribut que l'on a dû payer pour la démocratie. Mais on va y revenir dans un instant. Ouais. après avoir écouté un extrait de La Quête de Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Christine Martinez-Médal pour son ouvrage « La valise de ma mère » paru aux éditions Complicité. La quête de Jacques Brel, merveilleuse chanson, rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler une possible fièvre, partir où personne ne part. Christine, c'est votre chanson, ça?
Oui, absolument. Je m'identifie beaucoup à Don Quichotte, parce que mes amis me le disent d'ailleurs, tu pars toujours sur les routes pleines d'espoir, optimiste, avec ton bâton de pèlerin, parce que je suis certaine que la vérité est au bout du chemin. Et c'est pour ça que cette quête, malgré que cela semble incroyable, voire impossible à d'autres, pour moi, non, c'est le chemin nécessaire. Et malgré les embûches, il faut s'accrocher et il faut aller de l'avant. Vous savez, il y a Jack Addington, qui est un pasteur, avocat et écrivain américain, a dit « N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite. » Donc il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours aller de l'avant.
Et donc, comme vous êtes tenace, c'est ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, c'est quelque chose qui a trait également à la résilience.
Oui, absolument. Il a fallu que je traverse vraiment un tunnel très long et très très sombre pour enfin accéder un peu à la lumière, parce que quand j'ai écrit ce livre, je me suis vraiment mise dans les tripes de ma mère, et j'ai pleuré toutes les nuits en écrivant, parce que c'était c'était épouvantable, cette souffrance qu'a vécu ma mère, cette tragédie. Et avec le recul, je me disais, mais quelle force cette femme a eue. Et donc, cette force, elle me l'a transmise. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue pleurer, ma mère. Je l'ai toujours vue rire et chanter et relativiser les petits incidents de la vie. Et quelquefois, nous avons eu des affrontements, comme dans toutes les relations mère-fille à l'adolescence ou autre. Et moi, je lui en voulais, je lui en ai voulu quelquefois. Je pensais qu'elle était jalouse de l'amour complice que nous avions avec mon père. Mais j'avais l'impression qu'elle me rejetait. Et évidemment, après, lorsque je suis vraiment rentrée dans son histoire, j'ai vraiment compris le pourquoi de son comportement vers moi et la force qu'elle a eue et cette résilience qu'elle a eue pour aller de l'avant et pour sourire à la vie. Donc ça, c'est une leçon extraordinaire pour moi. Oui.
Alors oui, cette leçon est extraordinaire. On va pouvoir le mesurer dans quelques instants. Auparavant, je souhaiterais que nous revenions sur le cadre législatif qui a été mis en place en Espagne par rapport à la notion d'indemnisation des victimes. Et dans votre livre, vous expliquez qu'on bute un petit peu sur l'évaluation de la souffrance pour... Alors, on est très terre à terre, effectivement, pour calculer l'indemnisation comme si une indemnisation pouvait réparer quelque chose, de toute façon.
Oui, c'est vrai que à un certain moment, j'ai été choquée de recevoir donc de la part du gouvernement espagnol un espèce de document que je qualifierais avec un humour noir de diplôme quelque part d'une personne qui a fait de la prison, mais qui n'a pas assez fait de prison pour être reconnue et percevoir des indemnités. Et donc là, vous vous dites, mais comment peuvent-ils donc juger le degré de souffrance d'une personne à quelques mois près ? C'est épouvantable. On ne peut pas mettre dans la balance une femme qui a fait, mettons, 26 mois de prison à qui on a arraché son enfant. Elle aura moins de droits que celle qui aura fait 36 mois, la légalité, 36 mois de prison sans avoir vécu ce drame-là. Mais c'est épouvantable. On ne peut pas accepter cela. Donc, on est vraiment là dans la révolte, voire le dégoût.
Ouais. Alors, ceci rejoint de nombreux drames personnels et familiaux. Et au-delà de ça, on s'aperçoit qu'effectivement, c'était le lourd tribut à payer pour la démocratie. Est-ce que vraiment c'était incontournable ? Parce qu'on peut également quand même un peu en douter.
Alors, on y revient. Alors, c'est vrai aussi que c'est facile, entre guillemets, de critiquer, de juger ce qui s'est passé X années auparavant, parce qu'on a un autre regard, on a le regard d'aujourd'hui. Il faut vraiment se replacer dans ce contexte-là, de ces années-là, lorsque Franco décède, et que on doit faire la transition vers la démocratie. Et il y avait donc une condition, malheureusement, pour acquérir cette transition, cette démocratie. Déjà, la première condition, c'était de nous imposer le roi, Juan Carlos, au lieu de revenir à la République, comme avant la fameuse guerre dite civile. Donc, il a bien fallu accepter donc, que le roi Juan Carlos, héritier de Franco, soit sur le trône. Et ensuite, il y a eu cette fameuse loi, la loi dite d'amnistie, que tout le monde a appelé ensuite le pacte de silence, et qui interdisait la poursuite des criminels de guerre. Donc, si vous voulez, tout cet appareil-là s'est retrouvé complètement muselé. Nous ne pouvons pas encore aujourd'hui dénoncer et poursuivre donc ces personnes-là, alors que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est impossible. Tant que cette loi sera toujours en circulation, je ne sais pas si c'est le mot exact.
En vigueur, oui.
Voilà. On se heurte à un mur infranchissable. Moi, j'ai quand même l'espoir qu'un jour, cette loi va être complètement abolie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Déjà, il y a un premier pas, avec l'acceptation de ces plaintes des victimes. Donc, je pense qu'on va aller vers... Mais combien d'années ? Combien d'années de lutte ? Combien d'années de souffrance ?
Donc, c'est une voie que, quelque part, vous avez ouverte. Alors... On parlerait encore très longtemps, très volontiers de l'histoire de votre mère, précisément, qui a vécu des choses horribles dans les prisons franquistes. Je recommande aux auditeurs de lire ce livre parce que on peut pas le qualifier d'intéressant. C'est au-delà et on n'en sort pas indemne. Je vais faire ce que je fais pas d'habitude dans les émissions. Je vais conclure et ensuite je vais laisser Christine lancer un appel à son frère qui est peut-être encore vivant et qui effectivement faisait partie de ces bébés volés. Donc je vous rappelle l'ouvrage de Christine Martinez-Médael, La valise de ma mère, paru aux éditions Complicité, et je vous engage à écouter cet appel de Christine à son frère.
Merci beaucoup. Juste un mot, pour moi ce qui se dégage de cette lutte, de ce livre, c'est la force de ma mère, sa résilience. Et moi, mes amis ont beaucoup souligné mon courage. Et comme disait Jean Jaurès, le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire.
Merci beaucoup, Christine Martinez-Médael. Au revoir à tous, au revoir à nos auditeurs et à très bientôt.